20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. On le sait, la France possède un exceptionnel patrimoine préhistorique, notamment cavernicole avec quelques merveilles comme Lascogno, le portel des Combarelles, Cosquer, Cussac, Chauvet. La France a aussi fondé cette discipline au milieu du 19e siècle avec Boucher de Perthes, puis mise en place la chronologie de cette période avec tout un ensemble de cultures antédiluviennes qui fleurent bon le territoire national, Saint-Acheul, Abbeville, Aurignac, Le Moustier ou Solutré. Tout à notre gloire passée et désormais révolue, sortons un peu de notre ethnocentrisme pour regarder ce qui se passe ailleurs, car dans d'autres contrées, personne ne nous a attendus pour faire de grandes avancées. Ce dont nous allons parler est une découverte exceptionnelle, comme nous n'en avons jamais trouvé en France, et seul un préhistorien étranger, mais francophone, pouvait nous en parler. Marcel Hoth, bonsoir.
Bonsoir.
Préhistorien, professeur à l'université de Liège, vous êtes un des plus brillants chercheurs européens, un de nos plus fins connaisseurs de la préhistoire, s'étirant de l'Europe à l'Asie, celle de la moitié de l'ancien monde. Marcel Hoth, pourquoi en France personne ne connaît-il cet exceptionnel site de Soungir ?
Peut-être parce que vous êtes trop riche hein, en France. Et lorsque vous avez présenté les découvertes de la France, on a assisté à une sorte de tassement à la fois des populations et des civilisations en cet extrême Occident. Il faut bien voir, nous sommes dans une sorte de cul-de-sac ici en Europe occidentale, de sorte que ces mouvements civilisationnels se sont superposés. Et c'est vrai, il a fallu constituer d'abord l'histoire de ces civilisations. Ce fut le travail du 19e et du début du 20e siècle. Mais il faut bien voir aussi que tout ce qui vient s'accumuler ici, soit originaire d'Afrique, faut pas oublier le Maghreb, soit de l'Extrême-Orient, de la Sibérie en particulier, a continué à se régénérer dans ces régions originelles. Alors qu'il faut les comprendre, elles aussi, de manière à comprendre non pas seulement l'histoire, mais les mécanismes de formation des civilisations qui viennent ici se bloquer en une sorte de chronologie un peu trop coercitive pour comprendre les mouvements dans leur genèse. Donc ce qui m'intéresse, c'est effectivement ces genèses-là, au-delà de ce qui fut fait en France en termes de chronologie historique. Alors pourquoi c'est guère connu ? Il y a au moins deux raisons. D'abord, la difficulté d'appréhender des littératures exclusivement en russe. Il faut surmonter l'alphabet cyrillique, il faut surmonter une littérature grise, comme on dit, que souvent d'accès difficile. Et dans le cas de Soungir en particulier, ça n'a été publié que en russe par Bader, qui est décédé à la fin du 20e siècle. Donc il y a une difficulté là. Il y a une autre difficulté qui est peut-être à caractère idéologique. On n'aime pas trop de voir des choses aussi bouleversantes qui échappent donc à la chronologie classique de l'Occident. Peut-être même que inconsciemment, on n'a pas trop envie de voir des choses aussi curieuses qui échappent à ce que l'on croit savoir. Donc c'est une difficulté conceptuelle assez gênante. Mais il y a aussi une difficulté simplement documentaire. Il est difficile de comprendre des choses qui échappent à ce point à ce que nous savons et qui en particulier n'est publié que en langue russe, voire en ukrainien, qui n'est quand même pas très facile à comprendre. Et puis d'autre part, il y a peut-être une question de concept de la préhistoire. Vous avez annoncé que la préhistoire, c'est vrai, a été formée principalement en France, en tout cas en Europe occidentale, mais elle s'est formée là, sur la base de l'archéologie. C'est assez intéressant. Ce sont des données matérielles, donc, hein, c'est l'archéologie, qui se superposent, ces données, et qui créent une histoire. Or, lorsque l'on quitte cet extrême occident, qu'on va vers l'Europe centrale déjà, puis l'Europe orientale, puis au-delà de l'Oural, on se rend compte que ce qui est considéré comme de l'histoire à l'ouest, devient de plus en plus de l'ethnographie à l'est. Et que j'ai frappé à Saint-Pétersbourg et à Moscou les premières fois où je suis allé, il n'y a pas, comme chez nous, la distinction entre archéologie et histoire. Et l'ensemble de tout ça correspond à l'anthropologie. Donc, plus on va vers l'est du continent européen, plus on est motivé par une approche plus savoureuse de ce qui est encore vivant aujourd'hui et que nous enregistrons, nous, seulement du point de vue archéologique. Donc il y a deux approches très différentes qui font peut-être quoi, tendance à oublier des découvertes aussi importantes que celle-là.
Où se trouve Soungir ? En Russie, voilà. Bien sûr, mais où ?
Soungir, oui, nous sommes en Russie d'Europe, hein, faut bien le préciser. Nous sommes à l'ouest de l'Oural, nous sommes au sud de la Russie actuelle, donc pas loin de la mer Noire, de la mer d'Azov plus exactement. Mais la civilisation soungirienne, elle, s'étend de la Crimée jusqu'au nord de l'Oural. Toujours en Russie européenne.
Ah, vous écoutez, Marcelotte, on a l'impression que l'importance de la steppe aurait été souvent sous-estimée, alors qu'il s'agit quand même d'une sorte de réservoir démographique, mais aussi un réservoir culturel.
Oui, on pourrait même dire que la steppe telle qu'elle apparaît au Pléistocène, donc elle n'apparaît plus aujourd'hui, est, à mes yeux, équivalente à la steppe qui, elle, existe toujours en Asie septentrionale. J'insiste sur l'aspect septentrional parce que nous sommes dans les mêmes latitudes que l'Europe. Mais le climat a changé radicalement à l'ouest et peu à l'est. Pour des questions de climat assez évidentes. Nous sommes toujours dans des conditions très continentales à l'est de l'Oural, alors que nous sommes devenus dans des conditions très atlantiques du côté occidental, simplement parce que la mer du Nord n'existe plus, que l'ancien Atlantique est avancé sur les terres, et que les conditions steppiques que l'on connaissait durant tout le Pléistocène ont tout à coup ont disparu. Donc nous avons une idée complètement faussée de ce que pouvait être l'ère des steppes à l'époque. Alors c'est vrai que les populations dans les steppes soit pléistocène, soit actuel, sont des populations très nomades. Et ça, nous touchons à l'essentiel de la problématique du paléolithique en Europe. On a perdu de vue que ces populations se baladaient sur d'immenses territoires. On peut le savoir parce que les styles et même les matériaux se baladent dans le pléistocène. Mais dès qu'il y a eu le compartimentage du paysage durant l'Holocène, durant les périodes tempérées dans lesquelles nous vivons encore, eh bien, tous ces paysages-là, et donc leur mode de vie, ont disparu. Tandis que si on les regarde cette fois-ci, soit par rapport à l'Asie, soit en tenant compte de ce qui était le Pléistocène européen, on voit que tout ça constituait une seule unité. Depuis Vladivostok, depuis le Pacifique jusqu'à l'Atlantique, nous avons affaire à une seule entité, en tout cas environnementale, la steppe froide, et même, je pense, ethnique. Dans d'autres termes, nous ne pouvons rien comprendre au paléolithique supérieur européen, ou l'homme moderne, sans connaître l'Asie. Et puisque nous glissons vers ce concept, je ne crois pas du tout, bien entendu, à une origine africaine de sous ces mouvements-là.
Tout commence par la découverte de tombes. Comment furent-elles mises au jour ?
Alors là, de manière tout à fait accidentelle, on les a retrouvées dans des vallons qui s'érodaient et on a retrouvé de proche en proche une série. Il faut dire aussi que Otto Bader, qui était un archéologue compétent, très déterminé, très actif, était à la recherche. Donc ce n'est pas une coïncidence, comme toujours. On trouve de manière accidentelle des découvertes, mais la manière de l'exploiter de manière aussi intense et très soigneuse, évidemment, a été l'affaire d'une recherche systématique. C'est intéressant de savoir qu'on a pu retrouver non seulement les sépultures, mais en même temps des traces de cordage ou des traces de peau, de vêtements, des choses comme ça qui apparaissent très rarement. Pas tellement pour une question de conservation, mais parce que Bader avait l'esprit attiré vers des choses sur lesquelles on ne pense pas souvent. Donc comme ça, nous avons des séries de données qui éclairent la sépulture, son organisation et surtout la structure hiérarchique des différents défunts qui y furent ensevelis.
Qui sont les individus ? Un homme, des enfants ?
Voilà, donc il y a une série d'individus. Il y en a 5 ou 6 probablement au total parce que on a retrouvé des restes isolés d'ossements qui n'ont pas été interprétés en termes de sépulture, qui devaient faire partie d'un monument funéraire. Mais ce qu'on a retrouvé vraiment en place, ce sont 2 adolescents et leur papa. On dit leur papa une quarantaine d'années parce qu'il y a des données génétiques, paléogéniques, qui semblent bien confirmer toute leur parenté. En même temps que des données, cette fois-ci, socio-culturelles, ils sont habillés de manière analogue, ils sont disposés dans la même sépulture, donc il semble bien qu'il s'agisse d'une famille dont nous n'avons pas retrouvé la mère.
C'est une sépulture multiple, c'est-à-dire qu'ils ont été enterrés en même temps dans ces cas-là.
Oui, il semble bien que le père, lui, a été assassiné, a été abattu. On a retrouvé la trace d'une flèche dans ses vertèbres. Alors les enfants ont probablement été ensevelis en même temps, probablement après les avoir mis à mort, mais de manière sans doute assez douce, peut-être par un poison, parce qu'on n'a trouvé aucune trace de blessure sur les squelettes des enfants. Il semblait bien qu'ils aient été sacrifiés en même temps que leur papa, qui était là, lui, abattu de manière violente.
Et qu'en est-il des critères anatomiques de cette population ?
Ah oui, alors là, évidemment, nous sommes en plein dans le sujet, qui fait un peu désordre par rapport à la doxa. Nous sommes en présence de populations modernes, tout à fait modernes, très évoluées, bien que nous soyons à 32 000 pour les sépultures et que l'origine de cette civilisation remonte à 40 000 ans. Donc, ça fait un peu désordre parce que nous avons affaire à des hommes modernes, tout à fait constitués, bien avant les populations qui, chez nous, en Occident, apportent la modernité technique, anatomique ou culturelle. Donc on a quelque chose qui se passe là en Europe orientale, qui correspond à des hommes modernes tout à fait évolués, tout à fait accomplis, ils sont même pas en voie de progression. C'est-à-dire qu'ils ont dû subir une évolution anatomique que nous ne connaissons pas, mais qui a apporté les traits anatomiques modernes de manière indépendante, autonome, et qui a constitué cette civilisation. De manière assez curieuse, parce que tous les restes dont nous disposons montrent bien quelles sont les populations modernes. En même temps, il s'agit aussi d'une civilisation moderne, c'est-à-dire qu'elle utilise les bois de cervidés de manière générale. Tout ce qui est d'anatomie animale ont été récupérés. Ça, c'est un comportement moderne. C'est-à-dire qu'on utilise les matières animales pour en faire des armes, ce que les Néandertaliens n'ont jamais fait, n'ont jamais osé ou voulu faire. Donc on a affaire là, non seulement sur le plan technique, sur le plan symbolique, à un comportement tout à fait moderne. Antérieure donc aux Aurignaciens ou aux hommes modernes que nous connaissons en Occident. Il faut donc imaginer qu'il y a plusieurs centres, plusieurs processus même de modernisation de l'humanité, à la fois sur le plan anatomique et sur le plan culturel.
L'homme moderne, le sapiens sapiens, le Cro-Magnon en France, c'est bien sûr les premiers, c'est la culture aurignacienne. En Russie, à peu près à la même époque, donc ce serait une autre culture appartenant donc à ce site de Sungir.
Oui, je l'ai appelé Sungirien à la suite de mes amis russes. On parle aussi de Strelinskien pour la phase ancienne, puisque c'est le site où on l'a retrouvé à Kostienki. Il ne faut pas oublier l'immense site de Kostienki où tout ça a été retrouvé aussi. À ceci près que Kostienki, près de Voronezh, contient toute une série d'autres cultures. Donc il faut faire attention, quand on est à Kostienki, ne pas confondre. Tandis qu'à Sungir, et il y a plusieurs autres, comme Beruchaya Balka, qui est publié là-dedans, il n'y a que de Sungiriens. Donc on peut définir la culture de manière assez claire dans ces sites où cette culture-là est la seule représentée. Dès que l'on va dans des civilisations soit plus occidentales, soit dans des civilisations à plusieurs niveaux d'occupation, il est difficile de préciser la tradition culturelle. C'est assez curieux parce qu'elle semble, cette tradition, limitée à l'est de l'Europe. Il y a quelques traces que je crois percevoir en Sibérie occidentale, mais rien à l'ouest de cette partie-là de la Russie.
Pour vous, Marcelotte, le plus ancien paléolithique supérieur est là, justement, à Sungir. Donc, contrairement à ce que pensent nombre de chercheurs.
Oui, je ne suis pas très impressionné par ce que pensent mes collègues, mes estimés collègues. Mais si on parle du continent européen, oui, il semblait bien que le paléolithique supérieur accompli apparaisse là. Encore que, je répète, je pense qu'il y en a d'autres qui apparaissent de manière autonome. Il ne faut pas oublier non plus que l'Iran me semble aussi un des centres d'origine du paléolithique supérieur, mais aussi la Sibérie, l'Ouzbékistan. Il y a des sites très anciens comme Obirakmat ou Denisova. Voilà, on voit apparaître des techniques du paléolithique supérieur de manière totalement autonome par rapport à l'Aurignacien et par rapport à l'Europe. Donc il y a eu plusieurs centres, mais comme par hasard, ils sont quand même souvent soit en Europe orientale, soit au-delà de l'Oural. Donc en Asie, ce qui me paraît quand même significatif.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Marcelotte, 41 000 à 31 000 ans, c'est quand même très 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 ancien.
Oui, c'est non seulement ancien, mais c'est très long. Parce que, disons, une bonne dizaine de milliers d'années, une civilisation qui reste comme ça décelable par l'archéologie, implique pas seulement du point de vue archéologique, bien sûr, mais du point de vue de la métaphysique, lâchons un grand mot, ces populations se savaient particulières, puisqu'elles ont maintenu leur tradition de manière aussi nette, de manière aussi isolés par rapport aux autres. Et on peut les tracer parce que leur technique, mais aussi leur mode de décoration, leur rapport aux animaux, on voit les premières images apparaître, et les outils sont également en matière animale. On voit bien que l'ensemble de ce comportement constituait une civilisation, hein, je lâche le terme, en tout cas un système de valeurs qui était autonome, qui se définissait soi-même par rapport à ce qui n'était pas eux, et qui en même temps se distinguait des autres civilisations. Parce que si on reprend ce laps de temps 40-31, on voit qu'en même temps, en Europe occidentale ou ailleurs, on voit apparaître aussi d'autres civilisations pendant ce laps de temps. Bon, le Rhinacien, le Gravacien, et pourtant, il n'y a aucune confusion archéologique qui apparaisse entre ces différentes civilisations. Ce qui signifie que cette population était non seulement ancienne, je pense que l'origine est en Crimée, à Zaskalnaya, pour toute série de raisons techniques, et qu'en même temps, elle s'étend vers le nord de l'Europe orientale, tout en restant très homogène. On a pu étudier ça avec mon ami Karas Bozinski de Cologne, et puis mes amis de Saint-Pétersbourg aussi. On voit qu'une manière assez constante, ils entretiennent le même rapport à l'environnement, qui lui change, mais le système d'équilibre reste le même, et à la répartition des valeurs à l'intérieur du groupe. On s'agit bien, en effet, d'une civilisation traditionnelle qui s'installe dans les steppes orientales de l'Europe.
Alors voyons un peu le mobilier qui est vraiment exceptionnel, épreuve d'un très grand raffinement. Peut-être pour commencer, ces longues lances en ivoire.
Ah oui, ça c'est extraordinaire, hein, le fond. Plus de 2 mètres de longueur, on ne sait pas très bien à quoi elles auraient pu servir. On parle de lance, mais ce serait peut-être plutôt des épieux, parce qu'il est difficile de lancer au sens strict. C'est un peu le lance de notre Moyen-Âge, quoi, qu'on utilisait de haste, qu'on poussait, où l'animal venait charger et dans lesquels il venait s'empaler. Ces lances, donc, ce sont des défenses d'ivoire, c'est assez extraordinaire. Les défenses, bien entendu, sont courbes, sont même très courbes chez les mammouths, davantage que chez les éléphants. Donc, il a fallu les déplier et nos collègues russes ont pu mettre au point les méthodes par lesquelles, en plongeant les défenses dans l'eau, dans d'autres liquides, quelquefois, c'est parfois l'urine qui est utilisée, on peut les rendre humides et pendant ce temps-là, les redresser avec un cadre de bois, ce que je présente dans ce petit livre-là, le cadre de bois qui permet d'avoir, après séchage, une défense tout à fait rectiligne. Bon, c'est une hypothèse qui fonctionne bien, on a reconstitué expérimentalement, mais quoi qu'il en soit, les grandes lances des sépultures, de plus de 2 mètres de longueur, elles étaient toujours rigides et toujours rectilignes après une bonne trentaine de milliers d'années. Ce qui montre que, quelle que soit la méthode utilisée, elle était très efficace.
Alors les enfants ont des lances et des sortes de javelots en ivoire, mais aussi des bois végétaux.
Oui, on a retrouvé des traces de ces bois de manière
indirecte. Ce qu'on ne retrouve jamais d'habitude.
Oui, de manière indirecte, bien sûr. Hein. C'est-à-dire que ce sont des traces qui sont laissées sur les objets. Et Bader donc a retrouvé des fibres végétales. Et il y a eu quelques planches fantastiques dans sa monographie où il avait reconstitué des fibres végétales qui passaient sur les objets soit d'ivoire, soit de pierre. Et on en voyait les traces. Donc il a pu reconstituer toute une série d'objets qui étaient ainsi associés, dont les fibres végétales qui ont servi à tresser des cordes. Donc, il y a non seulement l'objet qui semble avoir servi à fabriquer les cordes, mais les cordes elles-mêmes qui étaient associées aux sépultures d'adolescence, plus vraiment des enfants.
Alors, les cordes sont bien sûr aussi tout à fait exceptionnelles. Moi, j'en avais connaissance uniquement à Kostinsky, justement, où je crois qu'elles étaient en ortie. On sait qu'on en a découvert aussi à Lascaux, mais elles ne sont pas bonnes. Elles sont vraiment visiblement très récentes. Ces découvertes sont absolument majeures.
Ce qui est exceptionnel, évidemment, c'est de les avoir conservés, au moins dans leurs traces et même dans leur système de fabrication, le processus de fabrication. Mais à nouveau, la corde, comme les lances en question, ne semblait pas avoir tellement une valeur technique, hein, faut faire attention, puisqu'elles sont associées aux sépultures. Un peu comme les rondelles, comme les statuettes. On voit bien qu'il y a une valeur symbolique, comme si c'était le signe de ces armes-là qui étaient associées aux sépultures, plutôt que leur efficacité. D'autant que, bon, évidemment, ils ne pouvaient plus servir. Mais leur utilisation symbolique, elle, a continué à accompagner le défunt.
Des massues auraient été trouvées dans une quatrième tombe mal conservée?
Oui, c'est ça. On a pas mal d'autres objets qui se promenaient dans les environs. Alors, L'hypothèse, c'est que ça a été détruit par les nouvelles sépultures et qu'on aurait donc eu, c'est aussi développé dans ce petit livre par d'autres collègues, on aurait donc eu un lieu sépulcral collectif qui aurait été réutilisé, ce qui expliquerait pourquoi les autres sépultures auraient été détruites. Donc on a d'autres objets qui se promènent aussi, d'autres outils de pierre et donc des restes crâniens qui ont été dégagés de manière anarchique, il semble qu'ils ont été détruits. Peut-être, c'est une des hypothèses qui a été aménagée, s'agissait-il de terrasses aménagées, bien sûr, et qui auraient été consacrées aux sépultures les unes après les autres, et peut-être de manière régulière et perpétuelle. Comme si le lieu sépulcral restait visible dans le paysage social de ces Sungiriens.
Il y a aussi des bâtons percés, un bien curieux objet dont les anciens préhistoriens avaient fait une sorte de sceptre.
Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Donc c'est à partir du bois de serre, du bois de renne, donc des éléments osseux très résistants qui peuvent subir des flexions. On en trouve en ethnographie un peu partout. Ils peuvent servir à redresser des traits, un peu comme pour les lances de tout à l'heure. Il y a des traits qui sont faits en bois de renne, ils sont courts bien sûr, ils seraient redressés par cet instrument en flexion. Mais dans ce cas-là, chez les Esquimaux en tout cas, on voit qu'il y a une usure bien sûr asymétrique qui justifie cette action-là. Tandis que d'autres sont usés de manière rotative, et c'est le cas ici, et pourraient bien servir comme un volant lorsque l'on tord les cordes pour les fabriquer, et ça pourrait bien être ça. Ceci dit, une fois de plus, il n'est pas du tout exclu que soit une arme, soit un outil ait été utilisé de manière symbolique. Pourquoi pas le bâton de commandement ? Je ne suis pas du tout allergique à cette idée, elle n'est sans doute pas exclusive, et pas... Bon, celui qui possède un outil et qui l'utilise de manière ostentatoire peut lui aussi être investi de la puissance de cet outil, vous voyez, comme d'une arme, quoi. Donc il y a toujours en matière humaine un décalage entre ce qui est vraiment utilisé d'un côté et de l'autre avec la marque de cette utilisation, un peu comme un officier britannique porte un stick, un bâton, ou bien nos rois portent le globe terrestre ou la couronne. Bon, c'est à la fois technique, mais en même temps c'est surtout symbolique pour des cadres. Donc les utilisations ne sont pas nécessairement en opposition, d'un côté technique, de l'autre symbolique.
En tout cas, tout ça est très organisé dans la tombe. Les deux individus sont tête bêche, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça.
Encadrés par les lances en ivoire, avec quantité d'objets au milieu, visiblement tout habillés.
Oui, on a pu reconstituer la disposition de leurs vêtements, hein, qui étaient cousus. Tout de même, là, on a une belle idée de la poserie et de la couture chez ces populations-là. C'est extrêmement bien préservé, très élaboré. Et puis, des objets personnels, comme vous dites. Donc, il y a ces rondelles très curieuses avec des huit branches que l'on retrouve un peu partout. Ça aussi, c'est un universel.
Des sortes de rouelles.
De rouelles, oui. Donc, on a les deux branches perpendiculaires, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et puis, des mouvements supplémentaires qui donnent comme une quatrième dimension, c'est-à-dire qui donne un dynamisme à la rouelle, hein, qui elle-même étant circulaire, suggère ce dynamisme. C'est une forme que l'on retrouve un peu partout.
Vous y voyez une sorte de symbole fort.
Oui, voilà, oui, j'aime bien ce genre de symbole, puisque lorsqu'on a des informations, comme en Mésopotamie ou comme aux Indes, eh bien, on sait que c'est un symbole non seulement spatial, mais en même temps dynamique, qui maîtrise le déroulement du temps. Pourquoi pas ? C'est une des hypothèses.
Les parures sont aussi absolument incroyables. 15 000 perles en ivoire ornent les vêtements.
Oui, ça c'est impressionnant. Hein. Et d'ailleurs, on a beaucoup élaboré là-dessus, parce que non seulement les perles en ivoire, mais aussi les coquilles, ce sont des objets qui demandent beaucoup de travail, qui demandent une durée de travail énorme. Ce qui concerne les adolescents, en tous les cas, leur vie entière n'aurait pas suffi à fabriquer tous ces ornements. Et peut-être même pour l'adulte. Dans tous les cas, on voit bien qu'il y a une hiérarchie dans la société pour que d'autres personnes aient réalisé à leur place des objets aussi nombreux et aussi élaborés. Comme si ça témoignait d'une hiérarchie sociale, certains fabriquaient ça pendant que d'autres étaient honorés par ce qui était fabriqué. Donc déjà la sépulture elle-même est tellement élaborée qu'on peut imaginer, percevoir déjà une hiérarchie sociale. Mais la richesse et le temps investi dans ces décorations corporelles accentue cette impression. Il semble bien qu'il s'agit de populations qui sont hiérarchisées et qui, peut-être, pour en revenir à la question tout à l'heure, peut-être justifient leur durée, leur pérennité. Si elles sont à ce point hiérarchisées, peut-être ceci explique-t-il que la religion, la structure sociale et les techniques, tout ça était constitué d'un ensemble qui faisait un processus, une sorte de système qui permettait la persistance des mêmes systèmes de valeurs pendant plusieurs milliers d'années.
Donc ce qui est incroyable, c'est que tout est visiblement là, alors que en général, ce genre de sépulture pour le début du paléolithique, il y a plus de 30 000 ans, est totalement rarissime. On n'en a quasi pas.
Oui, on en a guère, en tout cas de notre côté de l'Europe. Donc, il faut quand même bien voir qu'on dispose de populations, de sépultures assez énormes dans la Moravie, dans le Gravesien de Moravie. Elles sont nombreuses et très, très bien préservées. Mais alors aussi, en Russie européenne, en dehors de Sungirien, il y en a dans le Gravesien, il y en a même dans l'Ourignacien, qu'on oublie souvent. Donc, il y a une question, double question. Je crois que le fait que dans l'Europe orientale, il y a des dépôts de leus très importants. Donc, leus, je rappelle, c'est un sédiment fin apporté par le vent. Donc, la sédimentation est très rapide et en même temps non contraignante. Elle est très douce, comme une farine apportée. Donc, on a des conditions de taphonomie, de préservation davantage favorables à l'est et au centre de l'Europe qu'à l'ouest. Il y a davantage d'érosion. Il y a aussi le fait, peut-être, que comme je disais tout à l'heure, les Russes, l'école russe en général est beaucoup plus portée vers les reconstitutions anthropologiques. Donc ils sont très attirés par ce qui est structure d'habitat. C'est quand même là que le roi Gouan a eu l'idée de fouiller en planimétrie, faut pas l'oublier. Et donc pour les structures d'habitat, mais aussi surtout pour les sépultures. Donc il y a une double conjonction, le fait qu'il y ait ces sédimentations meubles et une recherche. Le marxisme est là derrière, derrière les écoles russes.
L'art est aussi présent avec des représentations de chevaux. Tout est dans cette tombe. C'est incroyable.
Oui, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Parce que on parlait à l'instant de comportement moderne qui apparaît très tôt là-bas. Alors nous, on a tendance en Occident à associer modernité avec art. Il faudrait préciser avec art figuratif. Parce que je pense qu'il y avait des arts dans le néandertalien aussi, on peut revenir. Mais que là, dès que l'art est exsudé, comme on dit, du corps, c'est-à-dire que l'art devient figuratif, on voit donc des images mythologiques, alors on parle d'art plastique, dit-on. Eh bien oui, ce processus d'exsudation, d'extraction de l'image, de la mythologie vers l'image plastique existait là aussi, et à mes yeux il existe de manière totalement autonome, pensons à l'Australie, à l'Afrique du Sud, c'est un processus qui est universel, mais qui n'est pas anodin, qui n'est pas aléatoire, il se fait à certains moments seulement. Donc cet art, oui, en effet, apparaît. Il faut pas oublier non plus que dans les mêmes régions, dans l'Oural, il y a aussi quelques peintures pariétales, donc on n'est pas loin.
J'ai récemment parlé de la grotte de Capova, donc oui, extraordinaire grotte. Les archéologues européens ont-ils perçu, compris cette découverte?
Je ne sais pas.
Est-ce qu'ils ont réintégré ces données absolument exceptionnelles donc à leur problématique?
Mais la question est difficile, délicate, parce que ce genre de découverte va à contre-courant, non pas des découvertes occidentales, mais de leur interprétation de manière générale. Donc on crée, c'est toujours la perversion d'être riche, vous commenciez par dire à quel point la France était riche en découvertes, mais c'est en même temps une perversion, parce que plus on a de choses, plus les modèles que l'on en sort sont rigides, ils deviennent rigides. Donc on perd l'imagination initiale des premiers chercheurs au 19e siècle. Donc il faudrait ouvrir à nouveau cette imagination en intégrant des données qui sont tout à fait inattendues. Je crains fort que ce ne soit pas encore tout à fait le cas.
Marcel Hutt, merci beaucoup. Carbone 14 a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Philippe Mercher et avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, Carbone 14 s'intéressera aux Gaulois et à Alésia.